penser à, un peu avant la messe, je pensais à ces, chrétiens-là qui sont décapités, qui sont égorgés là. Franchement, c'est pas. Ils ont une vie sur la terre, d'abord ils sont la plupart du temps très, assez pauvres. Ils font rien de mal. Ils ont de très bons prêtres, alors et du coup ils sont très pieux, ils sont très chrétiens, ils sont. Ils ne volent pas, ils sont très respectueux, ils ont la crainte de Dieu et la crainte aussi de Dieu. Enfin, ils font des gens assez délicats, ils sont fidèles. Et puis d'un seul coup arrive un moins que rien et puis il leur coupe la tête. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. C'est pas du tout comme Saint Paul, quoi, après avoir converti presque une douzaine de pays et de peuples. Voilà. On le juge à Rome, voilà, c'est glorieux, il avait fait quelque chose quand même. C'est à cause de ça, quoi. Parce que pour eux, là, les Jean-Baptiste, il y a quelque chose aussi de bizarre. Il n'est pas. Il n'a pas été martyrisé pour. Le motif de sa condamnation, c'est que c'est une petite affaire, un petit foufou. Voilà. Une petite affaire, un petit d'indonnant, ça. C'est tout. Voilà. C'est pour ça que. Il meurt martyr à cause de ça. Voilà. Et bon. C'est pas glorieux. Il est mort sans gloire. Il est mort sans gloire. C'est Jésus. Et c'est significatif parce que Jésus a bien regardé. Eh bien, Jésus est mort sans gloire aussi. Pour rien. Il est mort pour les motivations effectives. C'est rien. C'est des gens. Ils sont moins que rien, et uniquement parce que c'est peut-être que j'aurais plus la main sur la caisse du temple, ou des choses de ce genre. Et il est mort sans gloire. Voilà. Et c'est Libyens, tous ces Arabes chrétiens-là, qui meurent pour rien, enfin, sans gloire surtout. Et puis, personne ne sait. Personne ne le sait quand t'as fait ça. Tu te retrouves de l'autre côté, il n'y a rien. Enfin, si, il n'y a rien. Il y a Jésus, justement, mais humainement, c'est totalement. Humainement, il n'y a strictement rien, quoi, qui puisse nourrir l'espérance. Rien. Ah, et Saint Jean-Baptiste, comme ça, c'est quelqu'un qui est né dans ce qu'il y a de plus pur, dans ce qu'il y a de plus saint, dans ce qu'il y a de plus élevé. Il a participé à ce qu'il y a de plus grand, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'éternité, aux yeux de l'histoire, de la grâce, aux yeux des anges, tout. Et il a terminé au fond sa vie comme ça. C'est pour ça que l'évangile qui nous est donné veut dire quand même quelque chose. Jésus est mort sans gloire et quelque part, la petite jeune fille, petite vierge pourtant, on ne peut pas dire que c'était des gens qui étaient très chastes, mais la petite était encore. Voilà, et la vierge a obtenu, a été la médiatrice de la mort. C'est la tête qui était coupée et apportée sur un plateau. Donc tous les pères de l'Église disent, voilà, cet évangile cache derrière ça, la manière dont ça s'est produit, les dessous divins de la mort de Jésus. La tête a été emportée et nous, les membres, on aura été détachés, les membres. Et la tête se sont détachés, le Christ est monté au ciel et qui a amené sur le plateau la tête de Jésus pour la monter au ciel, c'est la Vierge d'Israël, c'est Marie. Marie est médiatrice de la rédemption, elle a livré son fils à la demande de la mère, c'est-à-dire à la demande de sa mère, c'est-à-dire à la demande de tous ceux qui vivaient de la grâce messianique, qui réclament « Seigneur, sauve-nous, Hosanna, Hosanna, et Hosavaot. » Le Seigneur, Adonai Elohim est tout-puissant, mais quand on dit « Sauve-nous », Seigneur, Sabaoth, c'est celui qui se met devant nous pour prendre les coups à notre place. Il se met devant nous, Sabaoth, prend les coups. Mais derrière, si l'ennemi part derrière, il y a force. Donc, le Christ a appris à Moïse qu'il fallait, dans la grâce messianique, supplier que le salut soit donné par le Messie, et que le Messie sera un serviteur souffrant. C'est à la demande de ceux qui sont dans la grâce que la Vierge obtient cette grâce, quoi, de la rédemption par la tête du corps de Jésus, du Christ vivant entier. Donc nous sommes les membres. Mais elle apporte le plateau. Et la foi fait que on ne vit pas les choses humainement. Nous vivons les choses selon la volonté éternelle d'amour du Père. Du coup, ça n'est plus la même lecture. Et ces enfants qu'on a vus là se faire égorger, ils pouvaient bien sûr humainement dire « c'est vraiment pitoyable ». Ils pourraient, on pourrait même, les musulmans, certains musulmans doivent se dire, ils doivent se dire « ces pauvres chrétiens, ça vaut vraiment pas la peine d'être chrétien. Franchement, ça vaut pas la peine, c'est nul. Ils ont rien. » Il termine comme ça et personne ne bouge. Tout le monde trouve ça normal, de l'Occident à l'Orient, du Nord au Midi. Tout le monde trouve ça normal, on ne le regarde même pas. Tandis que si le fils de, ou la maîtresse de je ne sais pas qui, s'est fait une égratignure, on en parle dans tous les journaux, etc. Si un médicament n'est pas bien, alors on en fait des scandales par le monde entier. Mais voilà, Jésus crucifié, c'est rien. Non, on n'en parle pas. Mais Jésus a été crucifié. Il n'y a que la nature qui a parlé, c'est tout. L'esprit du monde, c'est terrible. Alors, il y a une. On a une. Mais le petit garçon, le petit qui a dit Jésus, Jésus, là, quand on l'a égorgé. Bon. Lui, il voyait les choses autrement. Saint Jean-Baptiste, il voyait les choses autrement. Jésus voyait les choses autrement que les apparences. Nous voyons autrement que les apparences de l'hostie et de la coupe. Nous voyons autrement. Nous voyons dedans autre chose. Quand même, la goutte de sang qui est dans le calice, c'est l'amour éternel de Dieu qui fait vivre notre corps de résurrection pour qu'il aille au-delà de la résurrection. Parce que le sang de Jésus, c'est un amour éternel de Dieu qui va jusqu'à la matière vivante et qui fait éclater, si je puis dire, les espaces de la résurrection en allant beaucoup plus loin que le ciel de la résurrection. Pour, j'allais dire, tapisser de l'intérieur un amour vraiment divin, glorifiant. La personne même de Dieu, glorifiant Dieu. C'est pour ça que ça vaut la peine de vivre et de mourir sans gloire. Du moins, d'en être heureux, c'est un bon signe. Sans sécurité, sans gloire. Alors bon, eh bien, les enfants, c'est vrai, quand vous voyez les enfants, vous voyez les mamans qui ont eu des enfants qui ne sont pas nés. Tout de même, c'est vrai que quand c'est en clinique, l'enfant, nous présentons, donne leur acquiescement en la présence du Verbe de Dieu qui illumine tout homme à l'instant où il le crée dans ce monde. Il y a quand même quelque chose de grand dans l'oblation de l'innocence crucifiée d'un enfant. Et puis, la maman s'en rappelle quand même. Non pas parce que c'est un côté culpabilisant ou traumatisant, mais parce que il y a quelque chose humainement qui reste grand dans l'oblation libre de l'enfant qui accepte de s'offrir dans l'amour, la lumière, l'espérance, la confiance en une humanité qui est en train de le broyer. Mais la même maman, lorsque c'est des enfants qui ne se voient pas, oui, par exemple le stérilé, ça ne se voit pas, personne n'en sait rien, personne n'en sait rien, elle-même fait semblant de penser qu'il n'y a rien. Voilà. Et que vous avez encore mieux des pilules, les pilules contraceptives. Il y a deux catégories de pilules contraceptives. Il y a les pilules contraceptives qui empêchent la conception, parce que les cycles féminins sont arrêtés, il n'y a pas d'ovulation. Il n'y a plus de règles. Terminé. Et puis il y a des contraceptifs sur la maman, apporté sur un plateau, remboursé bien sûr, qui sont des pilules, non pas du tout contraceptives contre la conception, mais contragestatives, c'est-à-dire ça empêche l'enfant d'aller, après sa conception, se nidifier. C'est pas stérile, c'est chimique, mais ça permet de s'affaiblir, contragestif. Le processus n'est interrompu que dans certaines périodes du cycle féminin. Ça permet à la femme de continuer à avoir un petit peu ses cycles. Donc là, ici, ces enfants-là, encore pire que le stérilé, parce que le stérilé, on sait qu'il est là, parce que là, ces enfants-là n'existent pour personne. On peut faire des statistiques sur les enfants non nés, par exemple, sur le nombre par stérilé, mais le contragestif, c'est strictement impossible. Tu peux pas. Peut-être qu'il faudrait faire des statistiques du nombre de petites jeunes femmes qui prennent ça. Mais encore, tu pourrais. Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que ça fait un nombre énorme. Énorme. Déjà, le stérilé, ça multiplie par 100, je crois. Les statistiques officielles de l'ONU. Mais si tu rajoutes les moyens contragestifs, alors là. Et c'est pour ça que quand on dit 700 milliards, c'est une approximation basse. C'est pour ça qu'on a honte, nous, quand on s'intéresse à des petits détails, j'ai une égratignure. Si on a un acte de charité à faire, on le fait, même si c'est contre nous. À ses enfants, je parle plus, moi, ils sont connus, moi, ils sont reconnus, plus ils meurent sans gloire. Il n'y a rien, strictement personne. Pour être présent, parce qu'ils sont, sauf la petite goutte de sang, descend dans le calice de l'Eucharistie, parce que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ est quasiment identifié. Voyez. Et je crois aussi le roi, parce que le roi sait ce que c'est que cette petite goutte de sang. Il faut simplement accepter d'être ce que nous sommes et de savoir que nous sommes cette petite goutte de sang d'origine, et puis surtout de le percevoir, de le voir, de le toucher, de rentrer dans ce mouvement du très précieux sang, la dernière goutte de sang eucharistique de Jésus, pour pénétrer dans ce que nous sommes, la petite goutte de sang qui a commencé, et qui dans un continuum, comme disent les théologiens, qui dans un continuum, c'est comme le grain fait 800, des millions, des milliards, des myriades de grains. Mais c'est un seul grain. Alors, il y a une connaissance explicite, une connaissance personnelle, contemplative, et du coup une adoption. C'est peut-être pour ça, que l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse est nécessaire, parce que rendre impossible la charité, bon Dieu ne peut pas l'accepter. Qu'on puisse rendre impossible la foi et l'espérance, l'espoir, la paix entre les peuples, d'accord, mais rendre strictement impossible la charité, ça peut pas être dans la sagesse de Dieu. Ça peut pas être. Donc il faut qu'il y ait l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse, parce que sinon on ne peut pas voir ces myriades d'enfants qui disent oui Et puis, à la prière de l'Eucharistie quotidienne, dis oui, dans le oui, crucifie notre Seigneur Jésus-Christ et reçois dès le départ ce oui. Crucifier notre Seigneur Jésus-Christ de manière triomphante et en pleine gratitude, parce que l'Eucharistie est toujours un acte de gratitude. Et du coup, tout ça, ça rentre dans l'amour du roi, l'amour royal de la France. C'est la seule, on peut dire, bannière de la France. C'est la seule. Notre humanité arrive à ces instants-là. Et bien, c'est pour ça que je suis content de célébrer cette fois, puis cette fois, puis cette fois encore, la messe pour que toutes ces petites gouttes de sang, enfin, chacun de ces enfants puisse trouver, être plongé dans le calice du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont trouvé dans le corps, le peu de temps où ils ont été dans le corps, qui a été moulé par Dieu. Sorti des mains de Dieu, selon le visage de leur oui, et inscrit dans le livre de vie, mais dans la matière. Il y a quelque chose toujours de la matière qui reste. Vous voyez, il y a beaucoup de demeures dans l'innocence divine triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est pas la même chose. Jean-Baptiste qui meurt sans gloire, mais il est le père de tout cela parce qu'il a acquiescé à ça avant de naître, évidemment. Les acquiescements qu'on fait dans la vie d'enfance sont des acquiescements qui regardent toute notre traversée dans notre pèlerinage terrestre jusqu'à l'inscription dans le livre de vie qui est déjà là. On voit peut-être pas tous les détails, vous voyez. Un petit peu comme, vous voyez, un petit peu comme dans un mariage. Quelquefois, il y a des gens qui se marient, qui te témoignent que, à l'instant du mariage, quand ils se donnent les consentements, c'est comme s'ils voyaient défiler devant leurs yeux tout leur mariage, et puis les enfants qui sortiront d'eux. Ils les voient. Ils les voient. Et c'est une grâce de Dieu qui est donnée. Un témoignage qui est donné parfois, ça devrait être à chaque fois en fait, si c'était catholique. Mais on voit dans l'acquiescement du mariage ce oui qu'on fait pour tous les temps à venir jusqu'à la fin. Hein, c'est ça. Donc il y a une vision des choses, un petit peu comme on le dit pour Adam. Adam et Ève, à un moment donné, mais bien sûr, ils avaient, c'est ce qu'on appelle ça une. On appelle ça la grâce infuse. On appelle ça une lumière infuse. Ben Adam, il nous a connus tous, tout son... Jusqu'à la fin du monde, il a connu ça. Il a vu. C'est mystérieux, ça. C'est pas mystérieux, c'est... On le comprend, parce que nous, quelquefois, on a des... Qui n'a pas eu ce genre de flash rapide, quoi. Très rapide, dans l'espace fulgurant, tu vois des siècles, tu vois des années. Bah, c'est ce qui se passe aussi pour chacun d'entre nous quand on est en train de mourir. Tu vois passer en l'espace d'une demi-seconde, minute après minute, toute ta vie. En 3 secondes, tu as vu passer toute ta vie. Et tu vois assez clairement. Hein. Bon, ça c'est des choses qui nous sont données à cause de la memoria Dei, à cause de la mémoire de Dieu. Qui met toujours la ligne du chemin qu'il y a entre le corps originel et le corps Et le corps spirituel inscrit dans le livre de la vie, dans l'accomplissement. Il y a toujours un chemin qui est là, et qui est clair, ce qu'il y a entre l'un et l'autre. Et ça, c'est inscrit dans la memoria dei. C'est inscrit dans l'innocence. C'est inscrit dans l'unir du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, les enfants. Donc il y a quelque chose de la matière, il y a quelque chose de la matière vivante qui porte ça. Pour ça, c'est bien célébrer ces messes, là. Il y a plusieurs demeures parmi les enfants non-nés. Il y a ceux, les enfants non-nés, comme elle. Ils sont morts plusieurs fois dans le ventre de leur mère. Puis finalement, ils sont nés quand même, au grand désarroi des parents. Ben, c'est son cas, elle. C'est son cas. Tu as dit, je suis désolé, mais... elle doit donner des messes pour que les cellules staminales embryonnaires de tous ceux qui sont comme elle puissent être plongés dans le calice dans 53 ans. Alors donc, négatif. Tu as beau broyer, découper, etc. Elle vit quand même. C'est pas facile, hein. Parce qu'elle vit sans gloire. Hein. C'est une vie sans gloire. Puisque le seul moyen pour elle de survivre, c'est de faire comme si elle était morte. Hein. Sinon, elle ne pourrait pas survivre. Elle ne pourrait pas. Alors, quand c'est un jour anniversaire, il y a eu 2 ou 3 tentatives, quand c'est des anniversaires, des tentatives d'avortement, c'est impossible pour elle de respirer. Un miracle. On peut le dire, on est. On peut le dire, puisque c'est pas enregistré, personne n'est au courant. Et c'est beau que ça vienne d'elle, qu'on passe les messes pour elle. Elle a encore un corps, son corps d'embryon qui choisit la vie avec Dieu. Elle est toujours là. Puis il y a ceux qui, ces embryons, qui ces enfants qui ont laissé des millions et des millions et des millions, des millions, des centaines de millions de cellules staminales de leur oui originelle et embryonnaire, parce qu'on les avorte très tard. Et puis il y a ceux qui sont enlevés à la vie. Bon, voilà, quand il n'y a pas encore de réflexivité, il y a juste le cœur, mais c'est tout. Et puis il y a ceux qui meurent, alors là il y a des cellules staminales aussi. C'est les cellules staminales du cœur, ils sont tout proches de Jeanne d'Arc, ceux-là. Mais il y a d'autres, oui, il y a beaucoup de demeures, il faudra regarder toutes les demeures. Il y a ceux qui sont arrêtés par les stérilés, ils viennent s'étouffer avant de se nidifier. Ah là, oui, bien sûr, il y a des cellules, ils laissent, bien sûr, de leur corps, de leur oui, de leur amour, de leur lumière, de la liberté dans l'ordre du don, ils laissent quand même quelque chose dans leur mère, c'est vrai. Et puis il y a ceux qui sont détruits avec les moyens progestatifs, c'est-à-dire antigestatifs, c'est-à-dire là, si ça s'arrête au bout du l'équivalent du jumeau, quoi, 4, 5, 6, 7e jour, quoi, là il n'y a pas de cellule staminale. Ils n'ont rien à laisser dans la moelle osseuse de leur mère. Donc ils n'existent pour personne, même pas pour le monde du vivant. Le monde anonyme du vivant. Mais ils ont laissé quand même. Ils sont passés quand même là. Vous voyez ? Et il y a des bouts. Hein, le scientifique vous dira, il y a des bouts de séquences, hein, d'ARN. Il y a des duplications quand même. De séquences. C'est des petits bouts. Un petit peu comme le cœur Jeanne-là, c'est un petit bout. C'est pas le cœur. Des séquences. Il y a quelque chose. À tout le moins, une présence tachyonique. Vous voyez, c'est analogue quelque part. La cellule vivante primordiale de certains, ils ont laissé beaucoup de leur présence personnelle là, toujours vivante pendant 50 ans. Et quand on s'attaque au sein des saints, on s'attaque à ça. Mais il y a une autre frontière dans la matière qui est portée par le triomphe du Christ. C'est le tachyon. Donc quand on s'attaque, dans Jikusti Meshomem, au sanctuaire où commence la première cellule vivante, on s'attaque aussi en même temps, c'est bizarre le démon, hein. Lui il le sait ça, à la frontière qui fait l'existence de la matière, le tachyon, le CERN, c'est ça. Donc d'une année sur l'autre, du moins 3 ans et demi, 1290 jours, ils ont fait l'intrusion dans le sanctuaire de la vie, où le paternisé de Dieu est là, et 1290 jours après, jour pour jour, ils ont fait l'intrusion dans ce lieu de la frontière où Dieu est présent pour l'origine de la matière avant l'existence du temps, avant le Big Bang, si vous voulez. Ils se mettent là. C'est là qu'ils se sont mis. C'est là qu'ils veulent se mettre pour qu'il y ait quelque chose qui est avant le Big Bang, qui soit pour créer quelque chose de psychosymbiosomique dans la matière elle-même. Ça, pour moi, c'est la signature. C'est la signature que ces enfants qui meurent sans gloire avec les pilules antigestatives, c'est ce qui est le plus ennuyeux pour Satan. C'est ce qui meurt sans gloire à l'état substantiel. C'est la signature. Parce que ce qu'il laisse dans le corps de la mère, c'est un message. Comme a dit le pape. Le pape Benoît XVI a dit ça. Il y a un message qui est donné. C'est pas des cellules staminales. Il y a un message qui est donné à la mère. Voilà. Dès le génome, il a dit. Dès le génome. C'était un sermon. C'était pas la fête de la Trinité. C'était un autre. C'était étonnant d'ailleurs que Benoît XVI ait dit ça. Parce que lui qui était tellement loin à l'époque de Jean-Paul II. Il y a un message, il y a une relation. Et il y a une relation vivante à travers des messages vivants. Et ils ont forcément laissé un reliquat. Mais ce n'est pas des cellules staminales embryonnaires. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que pour qu'il y ait des cellules staminales embryonnaires, vous comprenez bien, il faut bien sûr que il faut que l'endomètre puisse l'intégrer. Voilà, et donc c'est quand même il y a quand même un reliquat. Voilà, et donc la messe qu'on célèbre, et puis c'est curieux que ça tombe sur Saint Alphonse de Ligurie, voyez, le jour où le livre du Lévitique indique tous les 50 ans, il y a un jubilé. Comme c'est curieux. Hein. Tous les 50 ans, c'est reparti à zéro. Voilà, c'est la durée de vie de ces cellules, enfin de ce oui, mon Dieu le permet comme ça. C'est curieux, hein, mais c'est les lois de la création, des réalités vivantes créées par Dieu sont autrement bien. Tout est fait avec une précision. Non, on mesure en fonction de ça. Pratiquement en fonction de le premier moment de l'embryon. La matière elle-même, pourquoi est-ce qu'il y a. Et c'est ça surtout. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Les lois, les 613 préceptes de la Torah n'ont aucune signification si ce n'est pas en fonction d'eux. C'est vraiment magnifique de voir ça. C'est magnifique de savoir en tout cas que c'est ça. Et même l'Eucharistie fait ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire dans le moment où je suis 9 mois avant Noël. Mettez-vous là, regardez ce que je vis lorsqu'à travers la matière assumée du chemin qui est le mien dans le chemin de Marie, dans le fiat de Marie, cette supervenue du Saint-Esprit, cette embrassure du Père, cette conception nouvelle dans la matière. Regardez ce que je vis humainement dans ce premier instant, ce premier moment, ces premières secondes, ces premières minutes. C'est dans cette mémoria-là que vous pourrez voir ce qui est caché derrière les apparences eucharistiques. La foi nous permettrait d'atteindre des réalités qu'on ne voit pas sans la foi. Alors quand on dit voilà, c'est un coup de génie ça. C'est un coup de génie la petite là. Un petit coup de génie, c'est sûr, on célèbre la messe pour que mon enfant reçoive la grâce de justification qu'il n'a pas reçue puisqu'on n'a pas pu le baptiser. C'est magnifique ça, ça c'est sûr, c'est magnifique. Bon, et qu'il y ait un nom, qu'il existe pour moi, qu'il revienne. Qui reviennent, voilà, on prie d'ailleurs beaucoup pour que l'Église reconnaisse officiellement qu'elle est la maman de ses enfants, que ses enfants ont une maman dans les membres vivants de l'Église vivante, de Jésus vivant. Tant qu'elle n'aura pas fait ça, on ne pourra pas dire que l'Église c'est la Jérusalem spirituelle. On pourra dire que l'Église c'est la Jérusalem spirituelle et donc elle est aux portes d'entrée de la Jérusalem glorieuse de la Jérusalem. Sinon, on dira toujours l'Église. Tant qu'elle n'a pas adopté, tant qu'elle n'est pas devenue la mère biologique, si je puis dire, hein, à travers ses membres vivants, de ces enfants-là, elle ne sera pas à Jérusalem. En elle, tout homme est né, en Sion, ma mère. En elle, tout homme est né. Alors les enfants des Esquimaux, des Bororo, tous ces miens ne trouvent plus leurs parents là-bas, puisque pour eux, ils ont perdu leur droit naturel à la parenté. Donc c'est nous qui devenons automatiquement les porteurs de leur mémoire originelle dans notre corps. À un moment donné, il faut, on prie beaucoup, beaucoup pour ça. C'est vrai, beaucoup, ça fait une trentaine d'années qu'on prie pour ça, pour que l'Église les reconnaisse comme étant ses enfants officiellement, par un acte comme Jeanne d'Arc a fait, écrit. Un acte notarié, conforme au droit civil, au droit naturel. Parce que, selon le droit naturel, quand une mère met au monde un enfant, ben, elle perd son droit parental si elle est incapable de savoir si c'est un enfant ou si c'est une bougie. Elle ne sait pas. Bon, voilà, donc elle perd son droit parental. Par contre, le frère, la sœur, etc., bon, vont adopter cet enfant comme étant le leur. Et c'est eux qui vont avoir tous les droits naturels, y compris concernant la vie biologique. tous les droits naturels, parentaux, civils aussi, et sociaux, normal. Et donc il faut bien un contrat écrit qui fait que l'Église devient la mère. Si elle devient la mère, hein, je ne sais pas si vous avez lu le catéchisme pour la justification des enfants non-nés, les 9, 7 points du catéchisme que vous avez sur un site merveilleux qui s'appelle Catholique du Net, et ben vous voyez ça, noir sur blanc, ça fait 30 ans qu'on demande ça, que le théologien demande ça, à la demande d'ailleurs de ceux qui ont un petit peu de sensibilité quoi, par rapport à ça, et qui aiment le bon Dieu aussi, hein, c'est vrai. Alors quand l'Église elle va les reconnaître, vous rendez compte, elle aura aussitôt le droit de les baptiser. Tous. Donc ça veut dire que tous ceux qui viennent à partir de ce moment-là, aussitôt, paf, messe, pour tous et pour chacun, tac, ils sont tous catholiques. Et c'est sûr que les enfants avortés des musulmans, les musulmans sont. Quelque part, il y aura des gens qui vont dire, oh, c'est honteux, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet acte qu'a fait l'Église catholique? Et d'un seul coup, eux qui disent que ces enfants n'existent pas, ils vont revendiquer, c'est trop tard, mon pote. Trop tard, c'est mon enfant maintenant. Ce que tu as donné, c'est donné. Donner et reprendre, c'est voler. Hein, d'accord. Pour ça, il faudra un acte notarié, un acte officiel, un acte pontifical. Pas les protestants qui vont faire ça. Des craintes, hein. Tu prends n'importe quelle religion, c'est. Si, peut-être l'antéchrist, mais il arrive trop tard, parce que le roi est arrivé avant. L'antéchrist, il pourrait comprendre ça, pour les baptiser, dans son 666. Ça, il pourrait faire ça. Parce que lui, il sait qu'ils existent. Hein. Et il peut les adapter comme père. Il y a quand même une course contre la montre. Hein. C'est pas rien. Hein. On en perd du temps. Hein. À savoir si la date est dépassée ou autre bêtise. On sera jugé là-dessus. Hein. Tant qu'on a passé. Le temps chronomètre qu'on a passé à ces trucs, quoi. C'est fou, quoi. C'est complètement dingue. Alors qu'il y a ce, on arrive à l'heure où c'est, voilà. Tu sais que si, mais je m'aime. La plus grave, quoi, la plus importante, l'éclatement de la fin du temps. La fin des temps, l'ouverture du temps. On n'a jamais perdu autant de temps sur des choses secondaires que depuis qu'on se trouve tout proche de la fin du temps, de l'ouverture des temps. Alors à quel esprit appartenons-nous, ça, c'est pas très difficile de le savoir. Il suffit de savoir, on fait un petit papier, on regarde le temps qu'on passe aux choses dans notre tête, notre journée. Et bien la petite, là, elle dit voilà. Elle dit rien, peut-être, mais elle dit voilà. Et on dit la messe, on célèbre la messe. Et la messe, c'est la coupe du très précieux sang qui descend. Et on plonge les cellules vivantes. Hein? Puisqu'on est encore dans le jubilé, hein, des 50 ans passés. C'est génial. On plonge dans le très précieux sang. Les cellules qui sont dans le corps de leur mère. C'est pas dans le corps du père. Hein. C'est pas le corps du papa. Le papa, il n'y a pas de cellules staminales embryonnaires. C'est le corps de la maman. Hein. On plonge là. Ces cellules vivantes, ces embryons encore vivants. plonge complètement dedans, très précieux sang. Sa mort sans gloire, d'accord, mais c'est autre chose que le baptême. C'est tout à fait autre chose. Oui, d'abord qu'on les découvre, on les aime, ils reviennent à la vie humaine, ils reviennent à l'affection humaine, ils reviennent à la respiration. À la respiration. Quand arrive leur anniversaire, ils ne peuvent pas respirer. Moi j'ai des témoins, hein. Et puis j'ai vu aussi. Alors du coup, heureusement c'est des périodes où il ne fait pas trop froid, mais il fait assez chaud. Donc elle va à la piscine, elle descend au fond, et pour pouvoir supporter ces jours-là, elle descend au fond de la piscine, jusqu'à ne plus, en apnée, tu ne respires plus, elle pouvait tenir sans respirer pendant 20 minutes, une demi-heure. Jusqu'au point d'éclatement, quoi. Le seul moment où elle pourrait supporter de... Hop, elle remonte, puis vite elle redescend. Charmant, hein. Dès qu'elle respire à nouveau, c'est totalement insupportable, puis c'est pire que la mort. Elle va au fond de la piscine. Elle s'en apnée. Elle ne respire pas. Et là, elle me disait, c'est le seul moment où je trouvais un minimum de paix intérieure pour supporter la vie, pour supporter l'existence, pour supporter. C'est la respiration de l'âme qui pouvait reprendre lorsqu'elle ne respirait plus. Terrible. Terrible. Sa maman, dont elle s'occupe. Elle est complètement en dehors de tout ça. Elle ne se doute pas le moins du monde. Elle dit, ma fille, elle semblait, c'est tout. Elle vit sans gloire. Parole, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est drôlement... On ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, hein. Tout de suite, elle comprend, elle voit. Pour elle, c'est pas très compliqué, quoi. Vous voyez, le mystère de compassion par rapport à ces enfants-là. Bon, c'est pas la même chose d'être reconnu, pour avoir une âme qui respire encore, qui peut arriver à se dilater comme en tant que lumière, non matérielle, immatérielle. Respiration de lumière. C'est une chose, c'est ça pourquoi on fait la première messe. Pour qu'il y ait quand même, les enfants puissent à nouveau se dilater, que leur maman dise, voilà, de mon âme à ton âme, la lumière circule à nouveau librement. On est une seule vie, on a la même vie, on est tous les deux des enfants de Dieu. Voilà, et je suis content, il y a une gratitude, il y a une complicité, il y a un avant-similitude, voilà, ça y est, c'est la première messe, elle est pour ça, pour arrêter ce blocage du déni, de l'oubli. Je l'avorte une fois, mais je continue à l'avorter, puisque je veux qu'il meure. Je veux pas qu'il soit vivant pour moi. Je veux pas. Donc je continue à l'avorter. La première messe, elle est pour ça. Pour qu'on arrête 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après son avortement, on arrête de l'avorter. Qu'il y ait une... D'accord, vous voyez, c'est ça. Qu'il y ait une circulation libre, que l'enfant redevienne un enfant de la maman, un enfant de notre humanité, un enfant de notre famille. Et jusqu'à ce que ce soit tellement vrai que du coup, ben, il puisse s'exprimer. Et sa première expression, c'est de dire son nom. Et quand c'est lui qui dit son nom, c'est pas toi qui lui impose un nom. Non, non, c'est lui qui dit son nom. À ce moment-là, tu as le signe que tu as vraiment eu l'intention de faire cette première messe. C'était pas pour te débarrasser, c'était parce que c'était ton intention. Puis la deuxième messe, tu vois qu'elle a donné son nom, c'est pour qu'il reçoive sacramentellement la grâce de justification, l'intégration dans le corps mystique vivant de Jésus vivant. Il n'a pas reçu puisqu'il n'a pas été baptisé. Il est encore quand même arrêté par le péché originel quand même. Il ne faut pas, quand même pas l'oublier. Donc voilà. Donc, il y a ça. C'est une chose, ça, cette deuxième. La troisième, mais, il faut qu'il communie tous les jours. Donc c'est pour ça que je suis très 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 content de cette idée. Qui va se mettre en route, j'espère, avant peu de temps, qu'il y ait une messe perpétuelle pour tous les noms qui seront donnés. Parce que même si c'est pas tous les noms du. Non, on ne va pas avoir 700 milliards de noms qui vont être envoyés. Mais tout de même, il y aura quand même leurs représentants. Hein? Ouais. Et quand on met leurs représentants, c'est comme. Comme Jésus, il donne aux apôtres, les apôtres donnent aux disciples, les disciples donnent aux 5000 personnes. La messe pour les enfants non nés perpétuelle, tous les jours, nommément pour chacun d'entre eux. Ce serait bien. Et bien là, ce qu'on va faire, là, pour la première fois, là, maintenant, de ces 21 messes, là, c'est autre chose encore. C'est autre chose. C'est à plonger leur mémoria dei vivante et encore dans la chair, dans le sang, au cœur même du jubilé, dans le précieux sang de Jésus. Ça. Eh oui. C'est la transverbération, là. C'est la transverbération. Il y a quelque chose, hein. Là. C'est une espèce de confirmation, en fait. C'est une espèce de pas de sacrement de confirmation, mais c'est une consécration royale, sacerdotale. Confirmation, quoi. Cette disparition dans l'au-delà des deux entre le sang précieux de Christ et puis cette petite goutte de sang qu'ils sont là dans la matière tachyonique, par exemple, si c'est que ça. Ah, alors là, oui, là, il y a quelque chose qui fait que. Et ça. Ils reprennent possession d'eux-mêmes jusque dans la racine primordiale de l'union hypostatique de Jésus dans ce qu'il devient, quand il y a cette petite goutte de sang. Voilà, et qu'il est dans cette toute petite goutte de sang originelle de son incarnation, il est dans ce saint dessein de la vie originelle, l'équivalent de ce qu'il est dans le principe, lorsqu'il intègre la matière, il est dans son union hypostatique, la matière et lui font une seule hypostase pour faire le principe de tout ce qui doit un jour exister, et même le monde angélique, là ici. Là, ici. On comprend pourquoi. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Qu'on commence à comprendre pourquoi, dans la clarté de l'innocence, quand Dieu nous crée dans le Verbe de Dieu, ces enfants-là peuvent librement acquiescer à ce qui doit leur arriver. Que ce n'est pas une aberration. Qu'ils peuvent. Non seulement ils peuvent, mais ils le font, et en très grand nombre, puisque c'est l'immense majorité qui acquiesce à ça. Hein, c'est ça. Puisque le Verbe illumine tout homme à l'instant où il vient dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le prologue de l'Évangile de Saint Jean, mais Dieu illumine tout homme lorsqu'il vient dans ce monde, à l'instant où il vient dans ce monde. Donc ça veut dire que ce serait une illumination qui n'illumine rien. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à jeter la Bible dehors, hein, au feu. Hein. C'est qu'elle ne va rien dire, quoi. Mais bien sûr, voyant cela, Ben, peut-être qu'on aura à attendre une trentaine d'années, mais c'est pas grave, ça, c'est pas égal. Vu c'est oui, aussitôt. Ah, ceux-là, ces enfants-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont proches de l'Immaculée Conception, qu'est-ce qu'ils sont proches de l'Union hypostatique de Jésus, dès le départ. Qu'est-ce qu'ils sont proches de Saint-Joseph, qui, dès qu'il est confronté à cet arrêt, vite se précipite là. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre bien, immédiatement, à quel point il y a de l'amour dans Saint-Joseph, dans Sainte Marie, dans son Immaculée, dans l'Union hypostatique de Jésus. Et de quel amour il s'agit. Où sont les préoccupations qui occupent chaque seconde de cet amour-là? Ce n'est pas des préoccupations lamentablement nulles, provisoires, égoïstes. Et combien ça nous fait comprendre ce qu'il y a, à force que cet amour ne cesse d'augmenter, s'intensifier, dans le cœur du roi, de la sainteté du nouvel Israël de Dieu. Comment ça nous fait comprendre le chemin qu'il nous reste à faire pour l'aimer, pour découvrir cet amour qui est en lui et qui peut nourrir mon cœur dans l'ouverture du cinquième saut. C'est quand même ça, c'est quand même pas mal, hein? Et c'est pas une imagination. Alors voilà, on va célébrer en fond cette messe. Alors que, on va célébrer cette messe. Après tout, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et Jésus vient s'incarner sur l'autel. Embrassé partout où il se trouve. C'est tous ces corps vivants en attente pour qu'ils deviennent le calice du très précieux sur l'Eucharistie à l'état pur. C'est une consécration. C'est une consécration. Dans le feu. Croyez bien qu'eux, ils ne vont pas rester les bras ballants. Non, non. Ce qu'ils auront reçu, gratuitement, ils vont le donner gratuitement à tous les autres. Hein. Comme ça. Jusqu'à ce que l'Église le fasse avec, son, avec la largesse de sa toute-puissance en Dieu, dans le ciel et dans la terre. De manière universelle, féconde, actuelle, pure, surabondante. Plénitude. Dans le débordement de l'accomplissement de tout. Et en plénitude reçue. Alors nous, qu'est-ce qu'on a à faire quand on assiste à une messe avec une intention pareille? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est un peu comme quand vous avez... Quand vous avez un souci, par exemple, vous dites, voilà, c'est... J'ai mon frère, j'ai ma soeur, sont dans un état terrible, sont ligotés, c'est pas permis et tout. Allez, je fais célébrer une messe pour... Et puis, ou même, je ne fais pas célébrer la messe elle est célébrée de toute façon devant moi. Voilà, je le plonge, Augustine, voilà. C'est pour Augustine, c'est ma sœur, mon frère, peu importe, je la plonge, je l'engloutis dans le calice, je la plonge, et je l'engloutis complètement dans le calice, dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'engloutis. C'est beau de faire ça. pour son prochain. Parce que je sais qu'on en rencontre des gens quand même dans la journée. Donc on peut... Oui, bien sûr. C'est... Notre cœur est touché quelquefois par la tristesse de quelqu'un, son esclavage sur un vice ou je sais pas quoi, son insupportabilité. On a de quoi quand même.
On n'a pas besoin de leur permission.
Pardon ?
On n'a pas besoin de leur permission.
Ben non. Ben non. Le démon, il leur demande, le démon ne demande pas la permission pour les emprisonner. Donc je les plonge dans le très précieux sang. Je le plonge dans le très précieux sang. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Une fois qu'il a la grâce actuelle qui correspond. Mais en tout cas, moi, j'aurais fait ce qui est possible. Moi-même, je peux me plonger à la messe, je peux dire, voilà, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais être plongé complètement dans le calice, très précieux sang, complètement, complètement. Qu'il n'y ait rien de moi, qu'à droite, à gauche, devant, derrière, dedans, en intensité, en qualité, en substance, tout. Corps, tout. Non. Déjà le buvard du très précieux sang, tout devient le calice du très précieux. Voilà, je suis plongé dans le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reste suspendu comme ça, plongé dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le sang précieux, comprenez bien, c'est aussi un côté physique, divin, éternel, mais il y a aussi, c'est aussi le mouvement d'amour éternel d'avant la création du monde qui s'est concentré dans la dernière goutte de sang de Jésus qui est là, à l'état surabondant pour que je puisse être englouti dedans, être englouti, être le buvard du mouvement éternel d'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur, c'est-à-dire dans sa sponsalité incréée. C'est. Et là, je suis là. Et je reste le plus longtemps possible. Allez, 30, 40, 50 secondes. Une seconde par an. Pour que ça fasse jubiler. Je peux le faire pour mon prochain, ça. Pour sa délivrance. Je peux le faire ça pour mon cousin. Pour sa délivrance. Faire ça pour un enfant. Et c'est ce que nous allons faire pour les enfants. Puisque la petite nous l'a demandé. C'est la sagesse, hein, finalement. C'est pour ça, 7-7-7. 7-7-7, c'est la sagesse. C'est naturel de faire ça. C'est tout naturel, c'est normal. C'est inhumain de ne rien faire. C'est inhumain. C'est même pas chrétien, c'est inhumain. Donc 7, 7, 7. Elle sait qu'humainement c'est inhumain. Alors, peut-être. Si on fait ça, à la grâce de Dieu, hein, peut-être fini le cauchemar. Peut-être, sans doute. En tout cas, les portes seront ouvertes. Et tant qu'on se bouge un peu, hein, pas sur des questions annexes.
Tandis que parfois, c'est pas longtemps, mais un enfant qui est mort sans baptême. Et les parents étaient désespérés, désespérés, et le prêtre ne comprenait pas. Et est-ce qu'il faudrait que je la retrouve, cette famille? Ils étaient dans un désespoir.
Oui, ils viennent ici, on s'occupe de l'enfant.
Et
Et de toute façon, le désir
vous comprenez pas
de
du tout.
baptême, c'est ce que vous avez dans le catéchisme, ces enfants donnés, le désir de baptême des enfants vaut baptême pour l'enfant. Donc si du vivant de l'enfant, avant qu'il ne fût mort, il avait ce désir du baptême, l'enfant est baptisé, mais en puissance, c'est-à-dire réellement, il l'est, mais il faut l'actuer. C'est pour les enfants avortés, c'est pareil. Toute la signification des messes de justification des enfants, c'est ça. C'est basé sur ce principe de la doctrine, de l'enseignement de l'Église, c'est que le désir de baptême des enfants vaut, les parents vaut baptême pour l'enfant. Sinon, pourquoi est-ce qu'on baptiserait des bébés? Il faut réfléchir un tout petit peu dans la vie. Donc, voilà. Donc, mais, on n'a pas le temps. Oui, d'accord. Il y a une coutume aussi qui se perd et c'est désolant. Hein, mais ça va revenir, croyez-moi. C'est quand un enfant vient de naître, dans toutes les familles chrétiennes, pendant des siècles, tout de suite, on prenait de l'eau, on baptisait l'enfant. On appelait ça, là. On l'appelle toujours d'ailleurs, ça s'appelle toujours pareil. On baptise, Rémi, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, avec de l'eau, hein. On appelait ça l'ondoiement. Mais après, il y avait la cérémonie de baptême à l'église, mais ça, c'est l'inscription sur le registre. C'est, vous voyez, l'incorporation dans l'église, la possibilité de communier, etc. Mais c'est criminel, ces femmes, c'est ces mamans qui sont catholiques. Ils attendent 6 mois, 9 mois, 3 mois avant qu'il y ait le baptême. Donc, le pauvre gosse, pendant, il n'aura pas la grâce sanctifiante pendant du premier jour de sa naissance jusqu'à la cérémonie à l'église. Donc, il faut être complètement dans l'athéisme le plus pur pour arriver à faire ça. Ses propres enfants.
C'est les paroisses qui
bloquent. Non, vous êtes tout seul avec votre enfant. Il est né, vous mettez de l'eau, il est endoyé, c'est fini. C'est exactement comme on disait pour les enfants. Déjà pour la médecine, vous dira, docteur Jeannet, si pendant le premier mois, en tout cas les tout premiers jours, vous pouvez mettre tous les microbes que vous pouvez. Hein. Allez-y, hein, tous les parasites, tous les machins, tous les trucs. Que s'il respire, normalement, vous lui mettez ça quand il a le troisième mois, il va mourir. Mais le premier mois, impeccable. Les premiers jours, il développe immédiatement et pour toujours les mécanismes de défense par rapport à. Voilà. Alors, il faut lui donner des cerises pourries, faut lui asepticer. Et le pauvre gosse, il en souffre toute sa vie. Parce que la nature est comme ça. Tu deviens à la vie immédiatement, tes premières respirations développées biologiquement, immédiatement, tous les mécanismes de défense. Bon, si un jour tu as une allergie, c'est parce que ça veut dire que tu n'as pas les mécanismes de défense correspondants, c'est tout. De vouloir se surprotéger, ça fait des souffreteux qui rampe par terre. Et on passe à la caisse, normal. À vouloir toujours se protéger. Mais non, laisse tomber tout ça. Occupe-toi de ton prochain. Et puis c'est tout. C'est sûr. Voilà. Et bien, ce qui est vrai sur le plan biologique par rapport à tous les virus, toutes les bactéries et toutes sans exception, hein. Et ben c'est valable aussi pour le baptême. Le premier mois, tu vis sans la grâce sanctifiante. Mais c'est dégoûtant. C'est des chrétiens, quoi. C'est dégoûtant. sa vie, il aura des fragilités par rapport à des tentations qui sont propres à ce qui vient de la naissance, quoi, hein, et des premiers actes de prière, de relation avec le monde angélique, tout ça. C'est pareil, je veux dire. Et donc, on voit bien que... De toute façon, c'est pas la théologie, ça. Bien. Il faut avoir un tout petit peu de cœur, un minimum de... Moi, quand j'ai un enfant, si jamais j'ai un enfant, je veux tout pour mon enfant, quand même. Je ne vais pas dire, ah oui, mais... Faut voir aussi. C'est quand même plus important qu'il ait des langes aseptisées. Qu'il ait un berceau avec ci et avec ça. C'est dingue. Hérode et Hérodiade, ils étaient moins pires que ça. Hein. Alors, tout ça, pour dire quoi? Ça veut dire que le désir de baptême des parents vaut baptême pour l'enfant. Ah, parce que si l'enfant était... Hop, bon, d'accord, ils ne l'ont pas endoyé. Ça, voilà une erreur déjà. Mais ils avaient quand même le désir de l'amener. C'est un peu comme quelqu'un qui a le désir de se confesser, qui est décidé à aller se confesser. Il va prendre sa bagnole, il va se confesser, et puis pof, il meurt en allant se confesser. Il ne s'est pas confessé. Alors, bon, ben l'Église nous indique dans son catéchisme que la confession commence à partir du moment où tu as commencé le mouvement pour y aller. C'est comme la messe, elle commence. Il y a déjà la présence eucharistique dès le début de la messe. La présence réelle, la res et sacramentum est déjà dès le début de la messe. On n'a pas besoin d'attendre la communion. Voilà. Et pareil pour l'absolution, bien sûr. Quand je rentre dans le sacrement de pénitence, c'est-à-dire le mouvement qui fait que je vais trouver le prêtre, je suis déjà pardonné. Alors c'est pareil pour le baptême, bien sûr, hein, donc le désir des parents pour l'enfant. Il baptisé, vous comprenez bien, ça a besoin d'une reconnaissance par l'Église, un accomplissement quand même. Et c'est quoi la messe? C'est pour ça qu'on célèbre la messe, pour ça. Parce que la messe, Jésus vient compléter tout ce qui manque. Mais c'est fait. Mais il y a des compliments à faire, si je puis dire. C'est une manière de parler, évidemment. Je n'ai pas envie de vous faire tout le supplémentum de la somme de saint Thomas d'Aquin sur ces questions-là. Mais c'est évident. Donc, alors, les parents, dans le concret, ces parents-là, ils sont désespérés. Parce que ils n'ont pas à désespérer. Il suffit qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et puis c'est tout. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis qu'ils comprennent ce qui se passe pour cet enfant-là. Chaque enfant a sa mission, et les parents donnent la vie. Hein. Les parents sont toujours des sources de vie. C'est pas parce que l'enfant est mort que c'est plus eux les parents. Et les parents, ils donnent la vie. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc le désir de baptême, c'est pour ça qu'on célèbre ces messes pour les enfants. Nous, on est parce que tous les jours, il y a des membres catholiques de l'église vivante de Jésus vivant qui désirent le baptême pour les enfants avortés, même qu'ils ne connaissent pas. Et donc ils l'expriment, vous voyez ce qu'on fait la nuit, ils l'expriment. Ils l'expriment avant qu'ils ne meurent, ils l'expriment après qu'ils sont morts aussi, deux fois par jour. Vous voyez ce qu'on fait à minuit, c'est qu'ils ne sont pas encore morts, on s'adresse, on fait le baptême invisible de désir pour les enfants qui vont mourir aujourd'hui. Et puis après, à la messe du soir, vous avez remarqué, on demande le baptême pour ceux qui sont morts. c'est pas la même demande, vous voyez, de baptême de désir de l'Église, qui peut s'appliquer du coup dans une grâce sacramentelle lorsque la messe est dite pour le baptême après. Enfin, tout ça, c'est dans les 7 points de catéchisme fondamentaux sur la justification des enfants non nés. Mais dedans, on le voit bien, il faut bien qu'il se... il faut bien qu'il y ait des parents pour exprimer ce désir de baptême. Et ce désir de baptême des parents vient se conjoindre à la maman église, à la Jérusalem Sion, en elle tout amenée, à travers, substantiellement, c'est-à-dire réellement, grâce à la messe. Et voilà. C'est dans l'église quand même, hein. C'est une cérémonie. Hein. Il y a aussi un côté liturgique, il y a aussi un côté extérieur, c'est pas uniquement invisible et un désir, parce que si c'était que le désir, hein, ça pourrait bien être imaginatif, hein. Parce que quand ça se concrétise, c'est quand même... Et quand ça se confirme, l'enfant, d'un seul coup, hein, il te crie son nom. Voilà. Oh, c'est Rémi. Oh, c'est Rémi. Ah oui, c'est Rémi. Et c'est quand même... C'est pas imaginatif, c'est une confirmation concrète que tu as fait ce qu'il fallait, humainement déjà. Mais tu vas pas faire la messe alors qu'il n'y a même pas le truc humain. C'est impensable. Ouais, je fais un avortement, je donne la messe, voilà, on a 10 balles, ciao. Voilà. Mais non. C'est de la vie tout de même, c'est de la mort. Ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est ça, c'est la lucidité incroyable, la liberté, la lucidité incroyable, la maturité, si je peux dire, finalement, dans la lucidité et la liberté de ces enfants, là, dans les 20 premiers jours, c'est inouï, quoi, et les jours suivants aussi, hein. Il suffit de regarder Saint Jean-Baptiste. Au sixième mois, il est plus lucide, intérieurement, spirituellement, tout ça, dans sa contemplation, dans son amour, que tous les êtres humains, même les plus sages, qui meurent à 90 ans. Et trois mois avant la naissance, il y a plus de lucidité, plus de sagesse, plus de réceptivité. C'est le seul que l'Union hypostatique de Jésus veut venir rejoindre pour faire un... Il ne peut pas le faire dans un lieu qui ne soit pas un lieu de sagesse. Bien sûr que les enfants ont une lucidité inouïe. Regardez, est-ce que j'ai besoin de vous en convaincre? Il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception tout de même. Si on est catholique, ça ne fait pas le croire. L'ombre d'un doute, ça veut dire que dès le premier instant, elle est plénitude de grâce. Plénitude de grâce. Vous savez ce que c'est? Grâce en plénitude, ça veut dire toutes les grâces de Dieu qui ont eu sur la terre, que les gens ont eu pour avoir la foi, être sous le souffle du Saint-Esprit, savourer les choses intimes, de surnaturelles, les mystères de Dieu. Ça, c'est des grâces, ça. Et bien, elle avait ça en plénitude à la conception. Et elle n'avait aucune lucidité. Mais à ce moment-là, le dogme des mecs et conception, poubelle. Donc, la doctrine de l'Église, poubelle. Qui s'appuie sur l'Écriture pour le dire, Bible, poubelle. la plénitude de grâce, telle première ascension immaculée. Donc, elle est d'une lucidité parfaite. D'une liberté parfaite. Mais ça ne va pas cesser d'augmenter. C'est ça qui donne le vertige à Satan. Ça ne va pas cesser d'augmenter en elle. Et ce que nous croyons par la foi, quand dit le credo, que Dieu s'est fait homme, tout de même, l'union hypostatique, il y a deux natures humaines et divines dans une seule hypostase, hein, je veux dire. Et ça implique quoi? Que l'intelligence humaine, l'intellect agent humain de Jésus, il est plongé substantiellement dans sa divinité, donc ça implique nécessairement, c'est ce que dit la foi, la nomen gloriae en lui, il est dans la vision béatifique. Il est dans la vision béatifique, même sur la croix, il est encore dans la vision béatifique. Il est sur la croix, Jésus sur la croix, dans son intelligence humaine, est dans la vision béatifique. Il voit donc ce que Dieu voit, avec toute la gloire de sa vision. Il voit dans son intelligence humaine exactement ce que aujourd'hui Saint François d'Assise voit dans sa vision béatifique. Saint François d'Assise n'a jamais rien vu jusqu'à ce qu'il soit rentré dans la vision béatifique. Hein. Jésus sur la croix, mais pareil, dans 9 mois avant Noël, voit le Père, il voit le Saint-Esprit, il voit les processions, il voit tout, chacun, toute chose, chaque chose, dans tout, il voit tout. Et en plus, dans la lumière de gloire. Et c'est dans son intelligence humaine qu'il le voit, la lumière de gloire vient dans l'intelligence créée, attention. Le Verbe de Dieu n'a pas besoin de la lumière de gloire pour voir, il est Dieu, il voit tout. La lumière de gloire, c'est ce qu'il y a dans l'intelligence humaine. Donc, quand on dit ça, et on va dire, mais non, Jésus, il ne voit rien du tout. Arrêtez de rigoler. Il n'est même pas né, donc il ne voit rien. On voit bien qu'il y a, si on a la foi chrétienne, quoi, hein, ça ne pose pas le moindre souci de savoir que notre intelligence, notre esprit humain et nos puissances spirituelles, je ne parle pas du corps et de l'âme, là, mais elle va se développer. Elle implique le psychisme, tout ça, après, hein, elle prend des futurs développements, mais il n'y a pas besoin de développement dans l'existence de l'exercice de l'acte des puissances spirituelles. Sinon, ça veut dire que Jésus, c'est faux, l'Immaculée Conception, c'est faux. C'est très simple. Pour les chrétiens, c'est très simple. Donc, il n'y a pas le moindre doute pour les chrétiens. Mais en plus, on a Saint Jean-Baptiste, on sait très bien que Saint Jean-Baptiste, c'est avant la naissance, et puis il y a notre expérience personnelle aussi, quand même, m'excuse, mais enfin, c'est si facile de se retrouver dans notre innocence divine originelle. Il suffit de prier un peu quand on est dans l'oraison et on le demande, et on le voit ce que c'est. Ce retour à la surface, parce que librement on acquiesce à bien vouloir être ce que nous sommes, on le voit, c'est pas une illusion. C'est clair, c'est très concret, c'est palpable, c'est net. Bon. Donc il ne doit pas y avoir le moindre doute là-dessus. Même si ça ne fait pas plaisir à Lucifer. Et plus on est petit, plus on le met en danger. C'est vrai. Et c'est eux qui vont le renverser, c'est évident. Mais vous, qu'est-ce que c'est que cette absurdité? C'est eux qui vont. C'est grâce à eux qu'il va y avoir la victoire de les apôtres des derniers. C'est absurde. Mais non, plus tu es petit, plus ça la met en danger. Donc plus nous, toute l'Église, on se met, j'allais dire, à courir derrière tous ces enfants pour faire comme eux autant qu'on peut. Si c'est ça qui se passe, l'heure de Lucifer, la dernière heure de Lucifer est arrivée. Celle de l'Antichrist, d'abord, pour commencer. C'est plus qu'une question d'année. Ça se compte plus en jubilé maintenant. On est dans le jubilé de la disparition de l'Antichrist. Pas mal. Moi, ça me fait plaisir.